VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Raïssa Girondin avec vous en direct de Washington pour Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir. Voici les titres. Poursuite de la tournée en Afrique du secrétaire d'État américain, il a rencontré Addis Abeba, le président de la commission de l'Union africaine, avant sa prochaine étape à Djibouti.
Tendant à ce que les Américains aussi, de leur côté, fassent un geste pour essayer aussi d'être présents dans l'économie de Djibouti.
Jugement en appel rendu pour Jean-Pierre Bemba, la CPI, l'ancien président congolais condamné à 1 an de prison. Aujourd'hui, le 8 mars, c'est la journée de la femme. Une bonne partie de nos dossiers du jour leur seront consacrés.
Cette organisation prend en compte les femmes aussi bien du milieu rural que du milieu urbain. Les femmes des marchés, les femmes cultivatrices, elles sont toutes membres de ce syndicat.
Dans la Minute Éco, on passera par la République démocratique du Congo où le nouveau code minier sera bien promulgué. Et puis tirage au sort de la Coupe du Monde de football féminin dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. Et à la une, Rex Tillerson poursuit sa tournée en Afrique. Le chef de la diplomatie américaine a rencontré ce jeudi à Addis Abeba le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et les autorités éthiopiennes. Le point avec notre correspondant, Geta Choutedia.
Le secrétaire d'État Rex Tillerson a revu avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamat Moussa Faki, la situation des conflits dans la sous-région de la Corne de l'Afrique et surtout de la stratégie comment appuyer les missions de paix devant les exactions d'Al-Shabaab. S'agissant d'Éthiopie, au cours de sa conférence de presse à l'hôtel Sheraton, le secrétaire a souligné. Nous avons la conviction que le pays s'en sortira le plus tôt possible de l'état d'urgence. Nous reconnaissons cependant les mesures prises en libérant bon nombre de prisonniers politiques. C'est déjà un grand pas pour aller de l'avant. Nous espérons que le gouvernement ouvrira la porte à ses citoyens pour que ceux-ci puissent exprimer librement leurs idées sans contrainte. C'est ce que nous, de notre côté, appuyons toute initiative allant dans ce sens. Geta Chetedla, Addis Abeba pour la Voix d'Amérique.
Et après son passage à Addis Abeba, Rex Tillerson fera escale à Djibouti. Idriss Fall a joint le premier ministre djiboutien, Abdulkader Kamil.
Écoutez, il y aura une discussion avec le chef de l'État, avec les affaires étrangères. Nous avons mené un certain nombre de discussions d'intérêts communs entre les États-Unis et la République de Djibouti.
Intérêts communs, la lutte contre les Shabab somaliens,
la piraterie, le terrorisme et puis aussi le développement de la République de Djibouti par des investissements américains. Nous attendons à ce que les Américains aussi, de leur côté, fassent aussi un geste pour essayer aussi d'être présents dans l'économie de Djibouti.
Et la tournée africaine du secrétaire d'État américain coïncide avec celle du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Il est en ce moment au Zimbabwe et a insisté sur l'intérêt de Moscou pour l'industrie du diamant et du platine. Au cours d'un entretien à Harare avec le nouveau président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, dans le cadre de sa tournée africaine, Sergueï Lavrov s'est déjà rendu en Angola, en Namibie, au Mozambique et au Zimbabwe. Il est attendu vendredi à Addis Abeba où il doit s'entretenir avec les autorités éthiopiennes et des dirigeants de l'Union africaine. L'ex-chef de guerre et vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, a perdu son procès en appel pour crime de guerre devant la CPI. La chambre d'appel a ordonné de nouvelles condamnations. Éric Manirakiza.
Les 5 juges de la chambre d'appel ont rejeté les 12 motifs d'appel de la défense de M. Bemba. Ils ont par la suite ordonné la révision en chambre de première instance des peines prononcées dans l'affaire de subornation de témoins en octobre 2016. Jean-Pierre Bemba a été reconnu coupable d'avoir corrompu 14 témoins qu'il avait présentés pour fausses preuves et sollicitation de faux témoignages. Il avait écopé 1 an de prison et de 300 000 euros d'amende. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, avait également fait appel et requis 5 ans de prison. Surnommé le Mobutu miniature, M. Bemba n'a pas non plus eu gain de cause dans un autre appel contre sa condamnation en juin 2016 à 18 ans de prison pour une vague de meurtres et de viols commis en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Il avait été reconnu coupable en vertu du principe de la responsabilité du commandant de sa milice, le MLC. La défense avait accusé les juges de manque d'impartialité pendant une audience publique en janvier.
Et par ailleurs, la CPI a confirmé le montant $1 million que Germain Katanga, l'ex-chef de milice de la République démocratique du Congo, doit payer en réparation aux victimes d'attaques meurtrières perpétrées dans un village en Ituri. Selon la Cour, il a facilité et coordonné l'approvisionnement en armes des membres de sa milice qui ont attaqué en 2003 le village de Bogoro, faisant 200 morts. Toujours en RDC, le collectif catholique à l'origine des marches anti-Kabila soutient l'appel à la grève générale vendredi en mémoire des victimes de la répression de ces manifestations. Ils veulent rendre hommage aux deux hommes tués par les balles des forces de l'ordre, Eric Bolo Koloko à Bandaka et Rossi Mukendi à Kinshasa. Les auteurs de ces bavures ont été arrêtés selon la police. En Centrafrique, la mission de l'ONU a déclaré prendre très au sérieux les accusations portées par un évêque sur des abus sexuels commis par des casques bleus. Elle assure que toute nouvelle allégation d'exploitation et d'abus sexuels feront l'objet d'une enquête. Les casques bleus ont abusé et ont laissé enceintes de nombreuses jeunes à Bangassou dans le sud-est du pays, avait déclaré un évêque espagnol. Au Gabon, c'est la première fois que des membres proches de Jean Ping assistent à une rencontre avec un responsable du gouvernement gabonais. Le ministre de l'Intérieur, Lambert Mata, s'est entretenu avec eux en vue des législatives prévues avant fin avril. Pour rappel, Jean Ping, ex-candidat à l'élection présidentielle, conteste toujours le scrutin de 2016. Au lendemain d'une déclaration de l'opposition dénonçant la poursuite du processus électoral par le gouvernement togolais et annonçant la reprise de ces manifestations de rue, le gouvernement dément l'existence d'un accord qui le contraindrait à suspendre le processus devant aboutir aux élections législatives et locales prévues en 2018. Le point à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
La coalition des 14 n'annule pas ces manifestations prévues pour la semaine prochaine, mais elle les reporte dans la semaine du 19 mars. C'est ce qu'a indiqué la coordinatrice de la coalition, Brigitte Adjamagbo-Johnson, de retour d'Accra, où le groupe des 14 a rencontré le facilitateur, le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Selon les propos de la coordinatrice, le président ghanéen les a suivis sur la poursuite du processus électoral par le gouvernement, ce qui serait contraire à l'esprit des engagements pris. On ne peut pas accepter une préparation unilatérale des élections, a-t-elle dit, rapportant les propos de Nana Akufo-Addo, qui a demandé un moratoire d'une semaine pour consulter la partie adverse. La coalition a relevé que la proposition du facilitateur est judicieuse, d'autant qu'aucune interdiction de manifestation ne leur est imposée. L'opposition dit avoir jugé utile de faire cette concession pour faciliter la tâche au président ghanéen et aider à trouver une solution pour la crise que traverse le pays. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le parti présidentiel, le RDR, veut l'union pour la présidentielle de 2020 avec son allié, le PDCI. Nous avons la certitude que nous aurons le parti unifié qui sera bientôt une réalité. C'est ce qu'a affirmé Mamadou Touré, le porte-parole du Rassemblement des Républicains. Cette alliance qui devait aboutir rapidement à un parti unifié en vue de la présidentielle de 2020 avait permis en 2015 la candidature unique d'Alassane Ouattara et sa première élection en 2011. Cependant, le principal allié, le PDCI, exclut cette idée, entendant présenter son propre candidat aux élections de 2020.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et en Syrie, le convoi humanitaire de l'ONU qui devait atteindre la Ghouta orientale a été reporté jusqu'à nouvel ordre en raison des raids aériens qui se poursuivent, et cela malgré les appels de la communauté internationale. Celle-ci a été incapable de faire cesser l'offensive du régime syrien. Plus de 900 civils ont été tués depuis le lancement le 18 février d'une offensive par le régime sur le fief rebelle dans la Ghouta orientale, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le président américain Donald Trump assouplit sa position sur les taxes sur l'importation d'acier et d'aluminium. Il promet de faire preuve de flexibilité avec ceux qu'il appelle les vrais amis des États-Unis. Le point avec John Lyndon.
Nous devons protéger et bâtir nos industries de l'acier et de l'aluminium tout en faisant preuve d'une grande flexibilité et de coopération avec ceux qui sont des vrais amis et nous traitent de manière équitable à la fois dans le commerce et la défense, a tweeté le président Trump ce matin. Une annonce qui sonne comme un assouplissement de sa position alors qu'il rencontre aujourd'hui les responsables du secteur. Le président républicain a annoncé il y a une semaine son intention d'imposer 25% de taxes sur les importations d'acier et 10% sur celles d'aluminium, ravivant le spectre d'une guerre commerciale entre les États-Unis et nombre de ses alliés comme le Canada, premier partenaire commercial et premier fournisseur d'acier des États-Unis. Face à la levée de boucliers dans le monde entier, la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a fait savoir mercredi qu'il pourrait y avoir des dérogations pour certains pays. Cette semaine, le conseiller économique du président, opposé à cette nouvelle taxe, a démissionné.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Dili Diko.
En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a promis un dialogue constructif avec les multinationales qui s'inquiètent de la promulgation du nouveau code minier qui pourrait fortement taxer le cobalt. Lors d'une rencontre ayant duré 7 heures, le président Kabila et les 7 principaux opérateurs miniers ont convenu de traiter au cas par cas les problèmes suscités par la révision du code très libéral de 2002. Chaque année, un total de 10 milliards de dollars de cuivre et de cobalt est exporté de la RDC. La Sénégalaise des eaux, la SDE, vient d'annoncer le renforcement de l'alimentation en eau potable de Medina Gounas. Cette initiative fait suite à l'incendie survenu lors de l'édition 2017 du Daaka, ou retraite spirituelle de Medina Gounas, l'un des hauts lieux musulmans au Sénégal. Le sinistre avait été fortement aggravé par les difficultés d'approvisionnement en eau. Les travaux financés par la SDE ont coûté 200 millions de francs CFA. En Tunisie, la banque centrale, la BCT, se dit inquiète d'une situation économique marquée par des indicateurs effrayants et défend sa récente décision d'augmenter son taux directeur. Le taux d'inflation est resté longtemps entre 2 à 3% pour passer maintenant à plus de 7,1% selon le nouveau gouverneur de la BCT, Marwan El Abbassi.
Et une musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir Aïssa.
Alors, on connaît les différents groupes de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans.
Tout à fait Aïssa, le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui à Rennes en France. Le Ghana et le Nigeria, représentants de l'Afrique, sont fixés sur leur sort. Logés dans le groupe A, les Black Princesses du Ghana seront confrontés au premier tour au pays hôte, la France, à la Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas. Dans le groupe B, on retrouve la Corée du Nord, tenante du titre, l'Angleterre, le Mexique et le Brésil. Le groupe C comprend les États-Unis, le Japon, le Paraguay et l'Espagne, les Falconettes du Nigeria. Se retrouve dans le groupe D avec Haïti, la Chine et l'Allemagne. La 9e édition du mondial féminin des moins de 20 ans, on le rappelle, a lieu du 5 au 24 août prochain en France.
Et c'est la 8e de finale aller de l'Europa League ce soir.
AC Milan, Arsenal reste l'affiche et ce sont les Gunners qui ont ouvert le score à San Siro. 1-0 donc pour les visiteurs grâce à une réalisation signée Mkhitaryan à la 15e minute, plus que quelques minutes avant la mi-temps. L'Atlético Madrid mène aussi 1-0 sur sa propre pelouse face au Lokomotiv Moscou. 0-0 entre le Borussia Dortmund et Salzbourg. Pas de but aussi pour l'instant à Moscou entre le CSKA et Lyon. À suivre un peu plus tard, Marseille, Athletic Bilbao, Lazio de Rome, Dynamo de Kiev, Leipzig, Zenit, Saint-Pétersbourg et enfin Sporting de Lisbonne, Plzen.
Et en Italie, Florence dit adieu à David Astori.
Florence a rendu hommage aujourd'hui un dernier à David Astori, décédé dans la nuit de samedi à dimanche. Des funérailles auxquelles ont assisté près de 10 000 personnes devant la basilique Santa Croce. Auprès de la famille et des proches d'Astori, il y avait Baresi, Totti, Van Basten, Buffon, Pjanic, N'Golan, le capitaine de la Fiorentina, sera inhumé près de Bergame, d'où il est originaire et où vivent ses parents.
Et c'est la fin du sport. Merci, Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a entamé à Addis Abeba en Éthiopie sa tournée africaine. Il a rencontré ce jeudi le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, qui a appelé à tourner la page sur les propos injurieux contre le continent attribués au président américain Donald Trump. Didi Diko fait le point. Petit problème technique. On va passer au Burundi avant de revenir sur les États-Unis. Les travaux de recueil de dépositions pour faire la lumière sur l'histoire du pays de l'indépendance jusqu'en 2008 continuent. Des agents de collecte et de recueil sillonnent les 18 provinces du pays. Certains habitants y trouvent un intérêt pour connaître la vérité et témoignent, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Reportage de notre correspondant au Burundi, Christophe Nkondiza.
Au chef-lieu de la commune de la province de Bubanza, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Bujumbura, des habitants arrivent discrètement pour faire leur déposition sur ce qui s'est passé dans les années 90, lorsque les mouvements rebelles affrontaient l'armée burundaise. Cette dernière, qualifiée de majoritairement Tutsi, combattait à l'époque les différents mouvements rebelles essentiellement Hutu, deux des trois composantes sociales du pays. Ce jeune homme affirme que ceux qui ont perdu les leurs doivent être indemnisés.
La guerre a amené beaucoup de choses malheureuses. Si vous allez voir les autorités, dites-leur de nous indemniser car nous avons perdu beaucoup de biens matériels et humains.
Tous les jours, pendant deux semaines, au moins 24 personnes ont fait leur déposition devant les agents de collecte installés sur toutes les collines de la province de Bubanza. Pour cet homme Tutsi, père de 7 enfants, il ne voit pas l'importance d'aller témoigner.
Je figurais sur la liste des gens qui devaient être tués. Tous les autres 90 personnes avec lesquelles j'étais ont été massacrées. Je suis le seul survivant. J'ai quitté notre colline le soir à cause du froid, plein de sang. Je n'ai vu personne parmi les bourreaux. Quelle est cette personne à qui je peux pardonner? Car c'était la nuit et il faisait très froid. Je vais témoigner quoi? Devant qui? Je ne vois aucun intérêt d'aller faire ma déposition.
La commission Vérité et Réconciliation a du pain sur la planche. Cette maman Hutu qui a perdu les siens en 94 se souvient de cette horrible époque et remercie les autorités si les personnes qui ont perdu les leurs vont être indemnisées.
J'ai passé deux nuits dans le sang alors que les autres avaient été tués au marché de Kizuka. J'ai vécu au Rwanda pendant 3 ans. Si on a quelque chose comme indemnisation, tant mieux, car à l'époque, j'ai tout perdu, même mon bétail. Les rebelles ont pris toutes les vaches, mais les personnes ont été tuées par l'armée gouvernementale.
Armée gouvernementale ou mouvements armés sont pointés du doigt par la population à l'époque pour avoir commis certaines atrocités innommables. Pour ce vieux octogénaire, la balle est dans le camp des politiques.
Cette maladie à connotation ethnique existe sous différents présidents. Michel Mitombero, Bagaza, Boyoy, même aujourd'hui. Cette maladie vient des autorités politiques, elles seules. Que ces autorités nous enseignent à nous aimer fraternellement, qu'elles nous éduquent à la paix pour que nous, pauvres paysans, puissions vivre en paix.
Une de ces trois commissaires de la commission Vérité et Réconciliation, Clotilde Bizimana, affirme que les Burundais viennent nombreux faire leurs dépositions dans le calme et la sérénité. Les dépositions qui ont commencé en avril 2017 sont conservées sur des fiches individuelles. Elles se termineront en mai prochain, juste à la veille du référendum du oui ou du non de la nouvelle constitution. Mais la CVR affirme qu'elle a seulement les moyens financiers pour les travaux de recueil des dépositions pour 4 des 5 provinces restantes. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, des femmes issues de centrales syndicales ont créé leur syndicat pour que les préoccupations des travailleuses soient prises en compte. 4000 femmes ont déjà adhéré au réseau des femmes syndicalistes, présidé par Mariatou Gueyo, ex-secrétaire générale adjointe de l'UGTCI. Nathalie Barge a joint la marraine du réseau Salimata Porqué, une figure du féminisme en Afrique.
Cette organisation prend en compte les femmes aussi bien du milieu rural que du milieu urbain. les femmes des marchés, les femmes cultivatrices, elles sont toutes membres de ce syndicat. On a choisi comme thème la couverture d'assurance maladie parce que en Côte d'Ivoire, il est mis en place une couverture assurance maladie, mais l'on pense que c'est pour un certain niveau. Alors donc qu'avec les femmes syndicalistes, les explications sont données à tout le monde. Et actuellement, elles sont en train de mettre des fédérations dans toutes les régions pour que les femmes soient informées et surtout comment défendre les droits des femmes du milieu rural en matière de possession des terres. Les femmes cultivent, mais en fait, elles ne sont pas propriétaires terriens. Et donc, comment est-ce que nous pouvons nous battre pour qu'une loi soit votée pour que les femmes puissent être propriétaires terriens? Et jusque-là, rien n'est encore fait. Avec ce syndicat, nous allons booster cela.
Alors, comment réagissent les autres syndicats?
Les hommes syndicalistes, eh bien, ils ont peur. Ils pensent que les femmes veulent faire de l'exclusion, leur arracher le pouvoir. En fait, non. Vous avez dû apprendre que dernièrement, en Côte d'Ivoire, il y a eu une crise entre les syndicats et le gouvernement. Pendant 3 mois, les syndicalistes de tous bords ont fait une grève. Et c'est nous qui avons réglé ce problème. Nous étions environ 5-6 et nous avons rencontré donc les différents groupes de syndicats. Et ensuite, j'ai abordé le chef de l'État qui se trouvait à une cérémonie. Je suis allée droit vers lui et je lui ai dit, Monsieur le Président, je viens vous signifier que nous, les femmes, nous sommes auto-saisies du problème des syndicalistes. Il m'a dit, Salimata, tu es sûr que tu peux régler ce problème? J'ai dit, oui, Monsieur le Président. Et ensuite, il m'a ramené vers le Premier ministre qui nous a reçus et nous sommes retournés vers les syndicalistes pour accepter de dialoguer avec le gouvernement. Et comme Marie-Tout connaît bien le système des syndicalistes, elle connaît leurs règles, donc elle nous a mis la puce à l'oreille. Qu'est-ce qu'il fallait aborder comme problème? Comment il fallait les amener à la raison? Et ça marchait. Et finalement, les syndicalistes, leur président nous a demandé d'aller intervenir pour eux auprès du président de la République. Alors Marie-Tout leur a demandé, vous mandatez la présidente ou bien qu'elle se lève d'elle-même? Ils disent non, nous la mandatons. Maman, nous vous mandatons d'aller vraiment faire le plaidoyer auprès du président de la République pour qu'on puisse trouver une solution. Et la solution a été trouvée. La grève s'est arrêtée.
C'était Salimata Porquet, présidente de l'organisation panafricaine Plateforme d'éveil électoral des femmes et des jeunes, jointe à Abidjan.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Mali, on n'a pas fini de parler du débat sur le code des personnes et de la famille, des questions liées au renforcement du droit des femmes en matière d'héritage, d'éducation, d'emploi notamment, continuent d'animer les conversations. Des groupes musulmans du pays ont souvent marqué leur opposition au code de la famille, estimant qu'il va à l'encontre des valeurs traditionnelles et religieuses du Mali. Pour en parler, John Lyndon a joint deux dames, Ségou Kankou Sangaré, présidente du tribunal de Ségou, et Fatimatou Lala Diallo, juge à Koutialaki, évoque tout d'abord les changements opérés dans l'actuel code de la famille.
Les changements et améliorations dans le nouveau code des personnes et des familles. Aujourd'hui au Mali, on peut citer le mariage, dans le cadre du mariage. Avant le mariage religieux, la célébration du mariage religieux était formellement interdite par l'ancien code. Avec le nouveau code, maintenant, on peut célébrer le mariage dans le mosque avec délivrance de certificat de mariage. Bon, il y a la succession aussi, l'égalité entre hommes et femmes dans la succession.
Des groupes musulmans se sont quelquefois opposés au code de la famille. Ce fut le cas en 2009, estimant que le code va à l'encontre des valeurs traditionnelles et religieuses du Mali. Est-ce que leurs positions ont changé?
Il serait difficile de mesurer la position, mais en regard des constats qu'on peut faire tous les jours, on peut dire que les positions n'ont pas encore changé par rapport au code de la personne et de la famille. Parce qu'on constate une montée des extrémismes, pas seulement au Mali, mais partout dans le monde.
Est-ce qu'il y a un dialogue qui est entrepris pour convaincre les religieux de changer leur position?
La société civile s'est toujours battue pour pouvoir faire changer les choses. Et la société civile continue toujours de se battre. Même le gouvernement est en train de mener des actions. Dans la mesure où il y a eu la coopération entre le Maroc et le Mali sur la formation des imams. Et cela est important pour faire comprendre à tout le monde la religion.
La femme malienne de demain, vous la voyez comment? Moderne, traditionnelle ou un peu des deux?
Moi, je vois un mélange pour la femme malienne de demain, un côté traditionnel et un côté moderne. Le côté traditionnel, c'est l'éducation qui aura toujours pesé sur le comportement des femmes. La femme continue d'être éduquée dans la plupart des cas, de manière à ce qu'elle puisse conserver l'essentiel des traditions.
Et c'était Ségou Kankou Sangaré, présidente du tribunal de Ségou, et Fatimatou Lala Diallo, juge à Koutialalaki.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
The life that I am living on, no, no. Easy baby, love you, love you. Shabalu, I love you. Oh, oh, what you are. Shabalu, I love you.
Et nous quittons Ainsi va le monde aujourd'hui sur cette musique de Femi Kuti et Wizkid. Merci de nous avoir suivis à la mise en onde, Sims Lumami, Mr. Zuniak à la console, Raissa Gironda à la présentation. On reste connectés sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
Me better in truth. See, I'm balling for two. Let nobody do me better in truth. With the bad musician, plus the bad producer. You already know, you're on every show. Africa woman, no go green. If you call a woman Africa woman, no go green. She go say, I be baby. She go say, I be baby. She go say, I know the woman. She go say, I don't know.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM. Bahia, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.